très belle soirée à tous.
Retrouvez chaque lundi, de 18h à 20h, toute l'équipe de la rédaction de Sport Plus avec Henri et Willy.
Tous les résultats sportifs régionaux, nationaux et internationaux dans toutes les disciplines, réactions, interviews et des invités chaque semaine. Sport Plus, votre émission 100% sport sur Radio Plus avec Henri et Willy.
Radio Plus, on y est bien.
Auditeurs, auditrices et internautes, bienvenue dans l'émission Sport Plus. Bonsoir Henri, comment vas-tu?
Bonsoir Willy. Ah ben sous la chaleur.
Bah ouais.
Comme la semaine dernière. Hein. Bon, je vais tirer le masque.
Oui.
Je l'ai gardé. Non, faut pas le garder. Bon, faut protéger les micros, mais oui. On ne garde pas le masque. Non. Donc, je suis tout seul aujourd'hui, ça va aller.
Exactement, dans la cabine.
Dans la cabine. Donc, il fait beau, hein. Franchement, 33-34 degrés. Faut remonter à 1949 pour avoir ces... Comme quoi, hein, dans le temps, il faisait chaud quand même, 1949, hein. 1949, 1961. Hein.
Ouais, ça date.
Comme quoi, hein, voilà, on dit il fait bon, de plus en plus chaud, mais non, avant, il faisait quand même plus chaud, mais moins, ça durait moins longtemps. Hein, parce que là, depuis le mois de mars, que dalle qu'en eau. Hein,
exactement. Ouais,
enfin, voilà, on n'est pas pour...
Non.
Demain, on coucou à Dominique, s'il nous écoute pour la météo. N'oublie pas demain matin à 8h, on aura des nouvelles. Bon, comme aujourd'hui, il fera beau. Voilà. Allez, après l'interview de Monsieur Christian De Vosk, maintenant, on aura une petite page musicale et ensuite une petite interview que Clément a faite avec Bernard Laporte, le président de la Fédération Française de Rugby, qui était dans le coin à Lille, notamment, ce week-end, et... Pourquoi il était pour la promotion des championnats du monde de rugby qui auront lieu en France en 2023. Voilà. Allez. Monsieur De Vos, bonsoir. Allô? Oui.
Ah, moi, tout est bon de mon côté.
Ah.
Ah. Allô? Je vais te laisser... Je vais le rappeler, Henri.
Oui, voilà, bon.
Le temps que tu donnes quelques informations.
Bon, voilà, bon, allez. Allez, mets une petite page musicale, allez, vite fait. Allez.
Ça marche, et on revient juste après.
Radio Plus, la radio de toutes les générations. Radio Plus, la radio pas comme les autres.
Ma station, ma région.
l'instant le groupe Partenaire Particulier. Avec Partenaire Particulier, je vais laisser la parole à Henri et son invité téléphonique, si ça veut bien marcher. Vas-y Henri.
Bonsoir, c'est le boss.
Bonsoir,
Christian.
Voilà.
Ouais. Alors, on va parler du BCM. Ça fait ça fait longtemps hein, quand même. Enfin, vous êtes passé sur l'antenne par rapport à Julien qui vous a pris en interview, même Lucie qui vous a pris en interview également pendant le confinement pour parler de des événements hein, dans le cours du confinement. Et un petit peu, on va revenir en arrière, cette fin de saison qui s'est terminée au mois de mars, et puis votre pêchage pour rester dans l'élite du basket français.
Oui, oui. Alors c'est pas un repêchage tout à fait, hein. Disons que ça a été une décision unilatérale au niveau des présidents de Ligue nationale. Oui.
Alors c'est vrai que vous étiez mal embarqué, mais resté quand même 8-9 matchs,
9 rencontres.
On ne saura jamais comment ça serait fini parce que ça s'était terminé comme ça. Et tant mieux pour vous qui restez dans l'élite du basket français. Alors disons, l'effectif du BCM a complètement changé à 80% cette saison 2020-2021. Alors qui est parti et quels sont les joueurs qui sont arrivés?
Alors, qui est parti? Ben, vous savez pertinemment, je sais que vous êtes un fan de statistiques et puis de documentation qui concerne le sport de la région. Alors, Fofana, Mipoka, Kofi, l'ensemble des joueurs étrangers, américains et autres. Et puis, il nous reste que Papsi.
Papsi, et puis votre joker, Orjan Stoja.
Oui, mais enfin, il était en pige en fin de saison dernière. Voilà, on a renouvelé avec Stojanovski.
Voilà. Alors donc, quels sont les joueurs qui sont arrivés et qui a eu la main mise sur le recrutement?
Si vous voulez, entre-temps, avec la direction générale du club et moi-même, nous avons décidé de prendre Olivier
Bourguin
comme responsable sportif. Voilà, puisque Arnaud Marius ayant quitté la société, il fallait pallier à son départ. Oui.
Alors, c'est Olivier Bourguin lui-même qui a eu la main mise sur le recrutement?
Non, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Olivier a, si vous voulez, au niveau du conseil d'administration, on détermine une fourchette financière. Je vous l'avais déjà expliqué, me semble, par le passé, mais on détermine une fourchette que l'on transmet. De cette fourchette, on déduit les contrats en cours. Bon, là, il n'y en avait pas beaucoup. Et puis, on transmet le montant qui reste pour composer la nouvelle équipe, à la fois au directeur sportif, enfin, au responsable sportif, et puis à l'entraîneur. Et le staff, parce qu'il n'y a pas qu'un entraîneur, il y a tout un staff autour de l'entraîneur.
Bien sûr. Donc il y a, disons, 4-5 personnes qui ont été concernées par le recrutement.
Oh, particulièrement 4.
4. Oui. 4, oui. Bon, je suis dans la norme, 4-5, donc 4, ça va. Donc on peut les citer quand même. Il y a Olivier Bourguin, il y a Serge Crèvecoeur, il y a Sébastien Devos.
Et Romuald Coustre.
Et puis
moi,
ouais, d'accord, ouais. Le responsable du, c'est lui le responsable comme Kyo qui est un peu au Racing Club de Lens, quoi. Un peu,
oui, Romuald est responsable administratif.
Mais pour le responsable.
Avant, il chapeautait les deux pendant l'intérim, avant l'arrivée d'Olivier, il chapeautait le sportif. Et puis cette année, l'arrivée d'Olivier le déplace complètement vers son rôle administratif.
Alors. Les joueurs qui sont arrivés, et de où?
Ah ben, on a plusieurs joueurs d'origine étrangère, des Américains. Vous avez Davis, Coel, Sewell, pardon, un Israélien, Itaï, vous l'avez cité tout à l'heure, Stojanovski, pour être
macédonien.
Voilà. Et puis c'est tout. Hein. On a on a un pigiste américain qui a débarqué ce week-end et qui remplacera Paul Rigaud qui a une blessure un peu bizarre. C'est au niveau de la voûte plantaire.
C'est un pigiste américain, c'est Gaylor Curie, c'est un américain?
Oui, d'origine, oui.
D'origine américaine, il jouait à Orléans la saison dernière.
Oui, oui, tout à fait.
Et donc, d'ailleurs, il a été blessé, il a fait un stage à,
voilà.
À là-bas, c'est qu'on redresse à Cap-Breton, hein, exactement. Hein.
Oui, oui, oui.
Voilà. Et bon, c'est vrai que vous l'avez vu jouer l'année dernière contre Orléans.
Quand il avait fait une belle prestation, oui.
Alors, et puis, votre cru majeur, c'est Chris Horton, quand même, hein, qui vient de Cholet, hein.
Oui, alors je voulais pas le citer parce que je savais que vous alliez revenir vers lui. Alors Chris, à l'avantage, c'est qu'il nous avait donné un accord verbal très très rapidement. Nous n'avions pas conclu parce que le Covid, étant arrivé et puis surtout l'incertitude de jouer soit en JP Elite, soit en Pro B. Donc on avait signé verbalement, si je puis dire, je sais pas si c'est une signature, mais tout au moins c'est un échange, mais il a été très très correct dans le contact, et puis Olivier a confirmé son arrivée dès que nous nous maintenions en JP Elite.
D'accord. Bon, c'est vrai qu'avec le Covid, les joueurs étrangers ont été plus longs à venir pour la préparation.
Ah, ça a été échelonné sur 15 jours.
Ouais.
15 jours pour recevoir les 4 Américains d'origine, donc oui.
Ça, bon, maintenant, ils sont bien intégrés. Bon, disons, l'équipe, apparemment, la mayonnaise prend. Hein. Il y a eu 3 matchs de préparation jusque maintenant. C'est vrai que la préparation a été tronquée par rapport au match, parce que, bon, vous deviez jouer contre le Portel, et puis des joueurs qui ont eu le Covid au Portel. Vous devez jouer en Belgique et recevoir les Belges. Ben, les frontières sont fermées avec la Belgique. Ouais. Donc, vous rabattez, donc notamment contre le Portel, vous avez joué une fois à Hasbrouck, et puis contre Reims, et puis contre Denain.
Denain et Lille. Lille aussi, nous avions fait un scrimmage. Un scrimmage, c'est une rencontre tout à fait... Dans des conditions technico-tactiques, de chaque côté, il n'y a pas d'arbitre, c'est un entraînement poussé. Mmh. Il y a des recherches de jeux offensifs pour l'un, de jeux défensifs pour l'autre, ouais. Et réciproquement.
Oui, un peu ce que je vois quand je vais à la préparation du volley, l'un des matchs de préparation où on compte pas les points, pour ainsi dire, et puis
voilà.
C'est les joueurs adverses qui passent le ballon et on se joue en défense et vice versa. C'est le genre de mise en place des systèmes, quoi.
Hein, oui, voilà. Oui.
Alors bon, les autres matchs, bon, c'était quand même des matchs de préparation quand même assez officiels. Bon, une victoire contre le Portel, assez difficilement quand même. Ouais. Contre Denain, encore un peu plus difficile.
Oui.
Et puis, alors ce week-end, disons que j'ai suivi le match via un réseau, hein, donc, qui diffuse les matchs, pas comme le BCM. Quand vous jouez en élite, là, c'est différent. Moi, j'arrive à savoir le match, comment il se déroule complètement. Mais là, je sais pas qui a marqué. Enfin, bon, passons. Et ça s'est joué sur 2 mi-temps. Alors, franchement, une première mi-temps, vous en encaissez 52 points.
Oui.
Et une deuxième, vous en encaissez que 22.
Oui.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé en première mi-temps?
Ah bah, écoutez, je crois que si on ne rentre pas dans le conditioning défensif, à ce moment-là, on oublie certains fondamentaux et puis il suffit qu'il y ait de l'adresse du côté opposé et les points encaissés sont importants.
Mmh.
Puis lorsqu'il y a un resserrement de la situation, c'est souvent ce que les coachs font à la mi-temps parce qu'ils apportent des informations sur les détails qui ont été délaissés en première partie et on retrouve dans ces cas-là notre base défensive ou offensive, hein, selon les consignes du coach.
Mmh.
Et là, ça a été une opération très très efficace en seconde période, ce qui nous a permis de revenir dans le match et de renverser la situation dans le dernier carton de manière importante.
Ah ouais, 7-28 dans le dernier carton, franchement...
Ouais.
C'est incroyable, mais vrai, quoi. C'est incroyable.
Oui, alors maintenant, vous savez, toutes les équipes sont en période de préparation. Mmh. Est-ce que Reims avait suffisamment de carburant dans son organisme collectif pour tenir 30 minutes? Nous, peut-être par chance, nous en avions un peu plus parce que nous n'avions pas encore été trop ennuyés par le Covid. Donc, c'était aussi une source de travail collectif ces dernières semaines. Et beaucoup de clubs, beaucoup d'équipes ont souffert d'absence de joueurs.
Ouais, ouais. Disons que Bourges, jusque maintenant, il n'y a eu aucun code répertorié.
Jusqu'à maintenant.
Jusqu'à maintenant, oui.
Oui, il y a eu des tests qui ont été passés ce matin. Les retours de tests ce matin, et nous avons des joueurs qui doivent repasser des tests demain pour confirmation.
Pour confirmation, oui, d'accord.
Voilà.
C'est pas simple en ce moment, hein, ça sera
non,
pas simple.
Non, deux fois par semaine, ils repassent des tests, et puis un jour c'est négatif, le lendemain c'est positif, ou l'inverse, c'est délicat pour tout le monde, oui.
Alors justement, quand, disons qu'il y a une suspicion, enfin, que c'est un test pas négatif, mais pas positif, enfin, c'est un doute, il y a en quatorzaine, enfin, maintenant 10 jours, disons qu'il n'y est plus sur le terrain, il n'est plus aux entraînements.
Ah non, les joueurs ne sont plus sur le terrain, ils sont plus à l'entraînement, ils doivent rentrer à domicile, dans leur domicile. Ils retournent pas aux États-Unis s'ils sont des étrangers, ou dans le sud si c'est un sudiste, hein, ils vont dans leur maison sportive, et puis ils sont là 7 jours consécutifs, et ils attendent les nouveaux tests, les résultats des nouveaux tests.
Alors, si par rapport au dernier match contre Champagne Basket pour Reims, hein, Chalon-Champagne, hein, et bon, il y avait 2 joueurs qui ne l'ont pas joué, bon, Paul
Rigaud,
qui est blessé, hein, qui sera remplacé par Gaylor Curier, et puis également un Israélien qui n'a pas joué, c'est-à-dire Itai Segei.
Itai Segei n'a pas joué les 2 dernières rencontres, et il ne jouera pas, si nous évoluons contre Reims mercredi, il ne jouera pas.
Non plus.
Il ferait, je pense bien, en conditionnel, sa rentrée en Coupe de France, mais c'est vraiment du conditionnel.
Ouais. Donc il y a un problème...
C'est pas grave, mais on ne peut pas se permettre de prendre des risques à l'heure actuelle. Ouais. C'est au niveau de la rotule. Bon, il avait eu une petite contracture, et on préfère qu'il soit en soins intensifs et que cela ne s'aggrave pas.
Ouais. Donc, pour revenir en 3 matchs, pour Colteportel, c'est quand même les joueurs qui jouent en Pro B qui ont fait une bonne prestation. Hein,
Ouais.
Boris, Rigaud et puis Morancy. Hein, bon, contre Denain, c'est-à-dire que c'est... Là, par contre, c'est Horton et puis Davis qui ont été phénoménales, quand même, pour attraper. Parce que ça peut être simple, d'après vous, contre Denain. Hein.
Non, pas du tout. Ça n'a pas été simple du tout. Denain a toujours été roue dans roue. On a pris un léger ascendant à une période où il y avait vraiment un 5 solide. On a eu jusqu'à 8 points d'avance, et puis cette avance a fondu. Et Denain est passé à quelques minutes de la fin de la rencontre, du 4e quart-temps, avec 3 points d'avance. Et ben, on est revenu au forceps et on a gagné au buzzer.
Ouais, contre un dunk de, disons, je crois que c'est...
C'est un dunk, c'est un tir lointain.
Un tir lointain de Cameron Wells, hein.
C'est, oui, exactement.
Ouais, 3 points, ouais, bon, c'est bien. Bon, voilà. Et puis bon, là, ce week-end, les points sont partagés, hein. C'est vrai qu'il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5 joueurs qui ont marqué plus de 10 points, hein. C'est pas mal, quoi.
Oui. Et ce qu'il y a, c'est que Cameron s'est retrouvé un peu au niveau de la marque, parce que jusqu'à présent, on ne l'avait pas beaucoup vu. Et c'est bien qu'il y ait une belle répartition. Il est vrai que lorsqu'ils ont intensifié la défense, ils se sont trouvés, parce qu'on a un staff qui est orienté vers la défense.
Ouais. Et puis Stojanovski, qui n'avait pas marqué beaucoup jusque maintenant, c'était presque le meilleur marqueur avec 15 points.
Oui, mais contre le Portel, c'est lui qui nous fait gagner par 2 tirs...
Lointains.
Lointains. C'est comme ça, ce sont des matchs de préparation.
Non, mais, donc, tous les matchs de préparation ont été sans public ou bien...
Non, sans public. Lorsqu'on a joué contre Denain, j'avais invité, puisque j'avais un conseil d'administration juste avant, j'avais invité les administrateurs à venir à assister à la fin de la rencontre et rencontrer les joueurs. Donc, sinon, non, personne. On essaie de conserver le plus possible l'intimité de l'équipe pour éviter justement la répartition du Covid, quoi.
Bien sûr. Donc, vous avez parlé de conseil d'administration. Il y avait un sujet que je connais qui a été abordé lors de ce conseil d'administration. Je pense que vous savez lequel. Oui. Alors, qu'est-ce qui en a été déduit?
Bon, d'abord, j'avais ouvert beaucoup d'échanges avec l'agent et l'avocat d'Éric Bartoszewski. Je suppose que vous parlez de lui, mais
ouais, bien sûr.
Je suppose, j'en suis même persuadé. Et voilà, depuis quelque temps, nous avions trouvé des accords, mais il y avait des détails qui ne convenaient pas ni à l'un ni à l'autre. Puis ça a duré. Depuis, j'ai rappelé l'agent en disant que bon, pour le 15, c'est-à-dire demain, ou après-demain, parce que selon mes disponibilités, nous allons résoudre définitivement ce problème.
Ouais. Bon, on n'en parlera plus, voilà quoi. Et ça va vous coûter certainement une petite somme, certainement peut-être une bonne somme, mais enfin, on n'en parlera plus, quoi.
Non, on a été juste, les uns et les autres. Au départ, c'était pas du tout cela, mais au fil des échanges et des discussions, on a été vraiment correct humainement d'un côté et de l'autre.
Ouais. De toute façon, le départ, hein, c'est pas vous qui l'avez instauré, c'est lui, Eric, oui. Qui a voulu prendre c'est lui qui a voulu quitter momentanément le club, hein, ses fonctions, parce que ça n'allait pas, quoi, voilà. Il voulait un électrochoc avec un autre entraîneur.
Exactement.
Voilà. Alors, maintenant, on va parler. Donc bon, il y a la reprise la semaine prochaine avec un match de Coupe de France contre Gries-Wolverhampton, hein, qui a joué aussi comme vous le samedi et puis qu'il a gagné également, Gries-Wolverhampton. Et puis alors, disons, est-ce que la Fédération française de basket et les clubs ont mis des consignes en place pour pouvoir jouer les matchs dans de bonnes conditions sanitaires?
Ah, je peux vous dire que c'est draconien ce qui nous est imposé à la fois par la Ligue nationale, par le ministère de la Santé, par le ministère des Sports et puis par les préfets. Il est normal, je vous dis, sur le plan santé en général, que l'on fasse le maximum. Ce qui nous a été imposé, on ne peut pas dire proposé, puisque c'est imposé, et à juste raison, oui, c'est draconien, mais c'est bien. Je pense qu'on fera le maximum. Alors actuellement, on ne peut pas recevoir plus de 1350 personnes dans notre salle, hein, 50% des places, et cela impliquera quelques difficultés pour recevoir un public extérieur en dehors des partenaires et puis des abonnés.
Bien sûr. Alors, disons que les quatre tribunes, enfin, toutes les tribunes seront garnies, mais disons avec des distances.
Distanciation. Sauf si d'ici 15 jours, enfin 10 jours maintenant, il y a un bouleversement.
Ah ouais, voilà.
On n'en sait rien. Hein, si jamais on passe tous au vert. Vous savez, c'est assez complexe. Hein. La semaine dernière, lorsqu'on était en milieu de semaine, on pouvait recevoir la totalité des spectateurs. Et puis, est arrivé le passage de zone verte en zone rouge et on est passé de 100% à 50%, avec des contraintes que je vous ai citées, hein, le respect, etc., tout ce qui sera imposé. Mais on est en capacité de le mettre en place. Donc c'est pas dramatique. La seule chose, c'est la perte de chiffre d'affaires qui pourrait être conséquente sur une saison. Maintenant, tous les clubs sont dans le même cas. On perdra tous du chiffre d'affaires.
C'est-à-dire, bon, vu la capacité de la salle du BCM, de la Sportica, c'est vrai que la jauge 2600 places, on va monter jusque 3500, mais bon, c'est pas réglementaire, hein, malgré tout, quoi. Hein.
Ouais.
Donc on s'arrête à la jauge normale, quoi.
Place assise,
voilà. Donc, voilà. Donc, ouais. Alors, également, bon, on en a parlé ensemble, hors antenne. Bon, les VIP seront accueillis quand même, malgré tout, avec des contraintes.
Oui, dans les meilleures conditions possibles, avec les contraintes imposées. Si vous voulez, vous connaissez un peu notre VIP.
Oui, bien sûr.
Et puis, on avait plusieurs buffets, ce qu'on appelle le service au buffet froid, chaud. Et ça, on ne pourra plus le mettre en place. Il faudra impérativement soit servir à table pour les VIP et les manches debout, mais ils auront des assiettes préparées. sur leur manche de boue.
C'est, ça va pas être simple à mettre en place quand même, malgré tout. Hein. C'est...
Non, 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 mais bon, Julien Bollanger et puis Romuald Kouch sont prêts à tout mettre en place.
Oui. Bon, enfin, bon, il y a quand même du travail supplémentaire, quoi, voilà. Et puis,
des contraintes supplémentaires, ouais. Bien sûr.
Alors, tout le monde, il faut savoir que tout le monde rentre avec le masque. Hein. Ça, c'est,
oui, oui.
C'est sine qua non, hein. Personne ne rentre non masqué.
Non, non.
Voilà. Et conserver le masque pendant toute la rencontre.
Normalement, oui. Sauf, je vous dis, s'il y a un changement, mais ça m'étonnerait.
Bon, ça m'étonnerait. On n'est pas plus dans le négatif que le positif, hein.
Oui, exactement.
Ouais. Voilà. Bon, alors, je sais pas. Moi, au niveau des clubs, je sais pas s'il y a des cas ou quoi. Bon, en football, je sais plus ou moins parce que le football est quand même plus médiatisé que le basket, hein. Encore que le basket, il quand même, il devient plus médiatisé. Mais je sais pas, dans des clubs, ils ont été concernés à un moment donné. Hein, c'est vrai qu'il y en a eu quelques-uns concernés, notamment bon, la région Le Portel. Je sais pas, au niveau des 16 clubs en élite.
Il y a quelques clubs qui ont été concernés. Et la difficulté, c'est que lorsqu'on a plusieurs joueurs qui sont en cessation d'activité, ben on ne peut pas s'entraîner collectivement. Mm. On s'entraîne en fonction du respect sanitaire et en fonction de l'éloignement. On s'entraîne sur demi-terrain de chaque côté.
Mmh. Alors, est-ce que là...
Nous, on verra demain où on en sera au niveau de la seconde...
Des tests.
Oui, des secondes tests, pardon, cette semaine. Oui.
Mmh, d'accord. Donc, oui, tests, et puis avant chaque match, il y aura des tests également.
Ah oui.
Systématiquement.
C'est obligatoire, Ouais. 48 heures ou 72 heures avant chaque match. Voilà. Oui.
Alors après, dernière question quand même, Christian, c'est, disons, un match peut être mis à quelles conditions?
Alors s'il y a plusieurs cas de Covid dans l'équipe, hein, ça peut être remis. S'il y a une décision du préfet qui nous empêche d'accueillir du public et que lorsqu'on avait eu lors de l'Assemblée Générale de la Ligue Nationale, nous avions refusé le huis clos. Mmh. Donc, mais nous avons un comité directeur après-demain qui va apporter quelques modifications parce que maintenant, si on refuse tous de jouer, je pense que le championnat va s'étaler sur 2 ans. Là. Ouais. Donc, il faut impérativement qu'on essaie de trouver des solutions. Je ne sais pas lesquelles. On va discuter entre présidents. Mmh. Et puis, on prendra une décision. Ouais. Voilà. Puis, il y aura des retransmissions télévisuelles. Vous avez lu, comme chacun d'entre nous, que... Équipe 21 va retransmettre des rencontres.
Mmh. Ah bon?
Oui.
Ah ben c'est bien.
Donc oui, c'est bien, c'est un côté positif.
Ah
donc,
oui, parce que tout le monde pourra aller voir alors.
Voilà, ce sera vraiment gratuit. Hein, ça change un petit peu de ce qui était RMC, Canal+, beIN Sport, etc. Mmh. Là, il y aura une ouverture pour les clubs de JPLI.
D'accord. Et voilà. Ouais, disons qu'il y aura un ou deux matchs de télévisés. Enfin, de toute façon, comme les journées championnat se déroulent sur 3 voire 4 journées, voilà. Bon, il y aura minimum 2 matchs de télévisés, quoi.
Peut-être plus. Je vous dis, on a une réunion après-demain, donc tout sera décidé là.
Ah ben, bonne nouvelle, Christian, bonne nouvelle que vous prenez. Alors voilà, bon, espérons que... Bah, vous voyez, en Amérique, c'est fini sans public, hein, je veux dire. Moi, je vois pas faire une saison sans public. Moi, personnellement, je vois pas. Hein.
Mais nous non plus, c'est la raison pour laquelle nous, président de club, nous avions demandé le retrait de cette décision de dire on jouera à huis clos. Mmh. On a suspendu, mais maintenant, je vous dis, si la télé est là, si on trouve des arrangements, si on peut avoir... Alors c'est vraiment tout est conditionnel, mais si on a l'opportunité d'ouvrir un certain nombre de publics, ben on le fera. Et si on n'a pas, mais s'il y a des retransmissions télévisuelles, il faudra qu'on l'accepte.
Donc vous avez quand même maintenant 2 partenaires télévisuels. RMC Sport et puis l'équipe 21.
Et l'équipe 21.
Ah, quand même pas mal, hein. Ouais. Surtout pour ceux qui aiment le basket et qui vont pouvoir voir certains matchs gratuitement.
Exactement.
Bah, c'est bien. Bon, ben, je crois qu'on n'a rien à rajouter. On a fait le tour du sujet avant. Allez, le mois de septembre, on aura le match contre Greif Oberchen dans une bonne semaine.
Oui.
Et
oui.
Ensuite, on aura le Paris. Valois et puis, oui. Et puis la réception de Limoges, je crois.
Limoges le 29, chez
voilà.
Nous, oui.
Et ça sera en semaine, hein. Par contre, ça sera mardi.
En semaine, oui.
Voilà.
Alors là aussi, hein, il y aura beaucoup de fluctuations de rencontres parce que. En fonction du calendrier qui est établi, c'est pas la certitude que ces rencontres se joueront aux dates prévues.
À la fois
pour les télévisions et à la fois pour cause de pandémie.
Ah bien sûr, non mais je veux dire c'est fixé à cette date-là. Après, vous êtes si la chaîne d'équipe 21 disent nous on veut diffuser ce match-là, mais ce sera pas le mardi, ce sera le mercredi. Ben vous devrez vous subir que
voilà.
Ce sera le mercredi. Quoi, voilà.
Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Mais au moins trois semaines avant.
Hein. Ouais, trois semaines avant.
Limoges ne va pas bouger. Voilà.
Bon, c'est bien. Bon, ben, Christian, bonne fin de soirée à vous.
Merci.
Et puis bon match pour mercredi. Là, ça sera au Sportica. Hein, donc, chez vous.
Oui, alors, c'est point d'interrogation.
Ah!
Ah. Oui, je vous dis si
selon les tests
de demain,
ouais.
Hein, je vais pas m'avancer à dire le match aura lieu ou le match n'aura pas lieu.
Ouais.
Maintenant c'est comme ça, on ne peut pas.
On
ne peut pas imposer une rencontre si on a des cas dans une équipe.
Ouais.
L'équipe adverse ne va pas non plus prendre le risque.
Ouais, bien sûr. Et puis c'est surtout que voilà, s'il y a eu un gars qui est positif, plus ou moins, tout le monde sera. Pas en quatorzaine, mais sera au moins une semaine confiné, quoi, directement.
Voilà. Exactement.
C'est ça, hein, voilà. On sait rien d'avance, et puis on est devant la tête accomplie trois jours après.
Exact.
Voilà. Bon, allez. Bon courage pour la... bon courage, parce que ça va être une saison très compliquée, pas dans tous les sports, hein,
il faut, quoi que l'on puisse dire, penser, sportif et autres, il faut penser à la santé de tous.
Ah, tout à fait.
Et c'est plus important que le reste.
Tout à fait.
C'est ma philosophie. Je vais me faire tuer par les gens qui pensent le contraire, mais peu importe.
Ah non, mais sûr que non. Mais je veux dire, hier soir, Marseille a battu Paris. C'est vrai que j'aime pas l'équipe parisienne, ça, Winnie le sait. Parce que moi, l'argent et le sport, tue le sport, hein. Et bon, c'est vrai que j'étais content que Lens batte Paris. Honnêtement, à Madrid, hein, c'est certain. Mais je veux dire, et après ils ont été Ibiza, ils ont pris une semaine de vacances, ils ont sans masque, sans rien. Et hier, les supporters marseillais, ils ont fait la Java et personne n'était masqué.
Ouais, ouais. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'incompréhension entre ce qui nous est imposé et ce qui est réalisé.
Bah ouais, parce que dans une zone rouge, on va faire le bête. Alors franchement, n'importe quoi. Enfin, bon, que voulez-vous, c'est tout, hein. C'est comme ça, hein.
C'est comme ça.
Les Français sont indisciplinés. C'est pas comme en Chine ou bien dans certains pays, hein. Voilà.
Oui, tout à fait.
Voilà. Allez. Bonne soirée à vous. Bonsoir.
Merci.
À toute l'équipe, à Hervé et tout ça. Et puis, allez. Un de ces jours,
Merci.
Au revoir.
Bonne soirée à vous.
Au revoir.
Au plaisir, au revoir.
Voilà, Winnie. C'était superbe, Christian.
Oui.
J'ai appris quelque chose, que les 21 diffusaient des matchs.
Oui, donc.
C'est bien, je pourrais en regarder certains.
Exactement.
Voilà. Comme quoi, l'interview ce soir a été positive pour savoir des nouvelles. Voilà.
Exactement.
Allez, on va passer une petite chanson, et puis, qu'est-ce que tu as choisi, puis on passera à l'interview de Clément par rapport à Bernard Laporte, qui était dans la région, pour la promotion du rugby et vis-à-vis de la Coupe du Monde qui aura lieu en 2023 en France.
Eh ben, on va partir juste avant avec Daniel Balavoine et Sauver l'amour.
La douleur, lui montrer la blessure étrange, la douleur. conscience, la douleur au fond de lui, sans cette peur immense de voir mourir ce sentiment d'amour intense.
Vendredi 11 septembre, le train Road to 2023 faisait escale à Lille pour signer un partenariat entre la métropole européenne de Lille et le comité France 2023 en charge de l'organisation de la Coupe du Monde de rugby. Une escale qui apparaissait évidente pour le président de la Fédération française de rugby, Bernard Laporte.
Notre rôle à nous, Fédération, c'est d'accompagner, d'aider au maximum les clubs présents et tous les dirigeants bénévoles, éducateurs qui s'engagent pour notre passion qui est le rugby. Donc voilà, on se doit d'être là et très heureux d'être à Lille aujourd'hui avec le train du rugby de la Coupe du Monde. Puisqu'il y aura des matchs Coupe du Monde à Lille. Donc, encore une fois, on se doit d'accompagner tous les territoires. Alors, oui, il y a des régions où le rugby est le sport numéro 1, dans le sud-ouest, on le sait. Mais ici, il se développe aussi. Encore une fois, la fédération doit être présente.
Un partenariat qui, selon lui, sera à coup sûr bénéfique aux collectivités locales comme aux différents clubs de rugby de la région.
Bien sûr qu'on a besoin d'une équipe d'élite dans un territoire. Parce que ça crée de la notoriété et ça incite les jeunes garçons et filles à pratiquer ce sport. Donc tout ce que je peux souhaiter à Marc Amareuil, c'est d'atteindre rapidement le plus haut niveau.
Une Coupe du Monde de rugby pour laquelle Lille, comme toute la région de France, s'affirme désormais comme un acteur majeur.
Voilà. Merci Clément pour cette petite interview. Il y en aura d'autres par la suite avec Clément qui est un emploi civique et puis bon, qui est à l'école de journaliste et puis enfin... cinquième année de journalisme. Je souhaite bonne chance pour avoir un job, un emploi dans l'avenir. Parce que c'est un très bon gars. Voilà. Si tu nous écoutes, Clément, on te dit bonsoir et puis à bientôt. Alors maintenant, on va parler Tour de France parce que c'est d'actualité. Hein. Aujourd'hui, c'est repos, hein, étape de repos. Deuxième journée de repos. C'était la semaine dernière. Bon, pas repos complet parce que... comme dit Christian, bah on fait les tests, et ben alors on teste tous les lundis les coureurs de Tour de France et puis la caravane. D'ailleurs, la semaine dernière, tous les coureurs, ils étaient testés négatifs. Et puis il y avait au niveau quatre équipes, au niveau du staff, bah il y avait un membre du staff qui était positif. Et puis le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme, était également positif. Alors, en même temps, comme Jean Castex, le Premier ministre, était avec lui samedi dans une étape pyrénéenne, ben, il a été testé. Et puis même qu'un contact qui était une semaine sans bouger, quoi, voilà. Il était confiné également. Hein. Et puis bon, maintenant, il a été retesté négatif. Et maintenant, il peut reprendre sa fonction de Premier ministre comme avant. Et à noter qu'il faut faire attention parce qu'il y a de plus en plus de cas, hein, franchement. Et puis encore aujourd'hui, je suis sorti, puis il y a des coins, ben, des jeunes, ben, ils font pas attention. Ils sont pas. Bon, ils parlent, tout ça, ils sont pas masqués. Enfin, les adultes, ben, ils font très attention quand même. C'est vrai que, au niveau des adultes, j'ai rencontré que tout le monde était masqué, mais chez les jeunes, ça laisse à désirer. Allez, on va parler du Tour de France. C'était donc mardi dernier, c'était la 10e étape entre le Château d'Oléron et Saint-Martin-de-Ré. C'était une étape où on devait avoir des bordures, mais il n'y avait pas de vent, il n'y a pas eu de bordure. Et c'est Sam Bennett, l'Irlandais de Colin-Kinsep, qui a gagné les 168 km 500 en 3h35 minutes et 22 secondes, à la moyenne de 47 km/h. Deuxième, Cadel Evans. Et de la Lotto Soudal, l'Australien, et troisième, Peter Sagan, le Slovaque de la Bora. Et Vovinelli, il finit quatrième. À noter que je crois que sur ce sprint, ben, Peter Sagan était disqualifié. Donc, c'est Cadel Evans qui a terminé, troisième, deuxième, et puis Viviani, troisième. À noter que Thibaut Pinot, lui, a terminé 109e à 5 minutes 23. Au classement général, bon, il n'y avait pas de changement. C'était donc Thibaut qui était en tête. La 11e étape entre Châtellenon-Plage et Poitiers, c'est Cadel Evans, l'Australien de la Lotto Soudal, qui a gagné 167 km 500 en 4 heures, 0 minutes et 1 seconde, à la moyenne de 41 km 900. Deuxième, Sam Bennett. Et troisième, Wout van Aert, le Belge de la Jumbo. Quatrième, Brian Cocquart, le Français, tous dans le même temps. Notez que Peter Sagan, et bien, c'est ce jour-là qui a été déclassé, au fait. Donc, il a été classé 85e, dans le même temps que le premier, bien sûr, mais il a été déclassé. Donc, voilà, c'est le plus beau sprint qu'on a eu avec quatre, disons, même pas une demi-roue, les quatre coureurs, Cadel Evans, Bennett et Wout van Aert. Et Peter Sagan a donné un coup de casque à Wout van Aert et c'est pour ça qu'il a été disqualifié. Pas de changement comme ça en général. Primoz Roglic toujours en tête. Donc on va arriver à la 12e étape. C'était donc jeudi dernier. C'est Marc Hirschi, le Suisse de la Sunway, qui a terminé premier, de 218 km en 5h, 8 minutes et 49 secondes, à la moyenne de 42 km 500. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'il courait après la victoire, il a terminé une fois deuxième, une fois troisième, et là, il a gagné, échappé, tout seul. Deuxième, Pierre Roland, à 47 secondes. Troisième, Andersen, le Danois, de la Sunway, à 52 secondes. À noter que Peter Sagan a terminé 13e à 2 minutes 30. Toujours Roglic en tête au classement général. La 13e étape, c'était vendredi dernier. Châtel-Guyon compte pas de Pérols. C'était en montée. C'est Daniel Martinez, le Colombien d'Education First, qui a gagné cette étape. Les 191 km 500 en 5h, 1 minute et 47 secondes, à la moyenne de 38 km 200. Deuxième, Leonard Kaina, l'Allemand de la Bora à 4 secondes. Maximilian Schachmann a terminé également de la Bora, terminé 3e à 51 secondes. Valentin Madouas, 4e à 1 minute 23. Primoz Roglic a réglé une petite partie du peloton, enfin même échappé avec Tadej Pogačar, le Slovaque, donc qui ont terminé 12e et 13e dans le même temps, 6 minutes 05. Bernal a terminé 18e à 6 minutes 43. Yet, qui était maillot jaune tout au début, a terminé à 6 minutes 45. Quintana, 21e à 6 minutes 45. Tom Dumoulin à 7 minutes 15. Romain Bardet à 8 minutes 35. Guillaume Martin à 1 minute 51. Julien Alaphilippe à 10 minutes 26. Thibaut Pinot, 38e à 14 minutes 24 secondes. Wout van Aert, 59e à 23 minutes 11. Et les sprinteurs. Le maillot à poids Benoît Costefo a terminé 86e à 27 minutes et 28 secondes. Evo Vinini, le sprinter de la Cofidis italien, 111e à 30 minutes et 1 seconde. Brian Cocquart, le français, à 31 minutes et 12 secondes, 145e, et Sam Bennett, le maillot vert actuel, 159e, à 34 minutes et 21 secondes. On arrive à la 14e étape. C'était donc samedi, entre Clermont-Ferrand et Lyon. C'était Andersen qui a gagné, Rohan Garn Andersen, de Sunweb, le Danois, les 194 km en 4h, 28 minutes et 10 secondes, à la moyenne de 43 km 400. Il s'est échappé dans les 3 derniers kilomètres. Deuxième, Luka Mergek, le Slovaque, à 15 secondes. Simone Cassoni, l'Italien de la Cofidis, à 15 secondes. Peter Sagan, 4e à 15 secondes. Turgis, le premier Français, a terminé 11e à 15 secondes également. Sam Bennett, 106e à 19 minutes et 46 secondes. Et Thibaut Pinot, également, en 19 minutes et 48 secondes. 114e, Evo Vignini, et 115e, Thibaut Pinot. Et Brian Coquart, le sprinter, 151e à 19 minutes 56. Et Cadet Evans, un autre sprinter, à 157e, à 28 minutes et 54 secondes. Hier se déroulait l'une des plus belles étapes. C'était entre Lyon et le col du Grand Colombier. On terminait par une ascension de 17 km 100, avec une moyenne quand même assez élevée, un pourcentage assez élevé, presque 10%. Donc c'est Tadej Pogačar, le Slovaque, qui a gagné cette étape. Les 174 km 500 en 4h34 minutes et 13 secondes, à la moyenne de 38 km 200. Deuxième, Primož Roglič, le Slovaque, le Jumbo Visma dans le même temps. Troisième, Richie Porte, l'Australien, de la Trek à 5 secondes. Miguel Angel Lopez, d'Astana, le Colombien, à 8 secondes. Eric Mas, l'Espagnol, de la Movistar, à 15 secondes. Adam Yates, l'Anglais, à 15 secondes. Roberto Urán, le Colombien, à 18 secondes. Tom Dumoulin, de la Jumbo, comme Primož Roglič, 12e à 34 secondes. Guillaume Martin, 14e à 3 minutes 25. Nairo Quintana, 18e à 3 minutes 50. Egan Bernal, 25e à 7 minutes 20. Thibaut Pinot, 49e à 20 minutes 52. Julian Alaphilippe, à 37 minutes 26 secondes, 127e. Peter Sagan, toujours à 37 minutes 26, a terminé 99e. Et Sam Bennett, le maillot vert, 153e à 38 minutes et 57 secondes. Alors, au classement général, à l'heure d'aujourd'hui, il y en avait une dizaine dans la minute la semaine dernière, mais une semaine après, tout a changé. Primož Roglič, premier, de la Jumbo, en un temps total de 65 heures, 37 minutes et 7 secondes. Deuxième, Pogačar, le Slovaque, comme la nationalité slovène, plutôt slovaque, slovène. Donc, comme Roglič, à 40 secondes. Troisième, Roberto Urán, le Colombien, à 1 minute 34, Adam Yates, 5e, à 2 minutes 03, Nairo Quintana, 9e, à 5 minutes 08, Tom Dumoulin, 10e, 5 minutes 12, Guillaume Martin, 11e, 6 minutes 45, Egan Bernal, le Colombien, 8 minutes 25, 13e, Julian Alaphilippe, 40e, à 1h37 minutes et 55 secondes, Peter Sagan, 80e, à 2h56 minutes et 8 secondes, Sam Bennett, 148e à 4h 10 minutes, 19 minutes et 45 secondes. Et le dernier est un Français, 156e, Jérôme Cousin, à 4h 43 minutes et 19 secondes. Alors, cette semaine, il y a encore 6 étapes. Donc, je vais vous donner un peu les étapes. Demain, ce sera mardi 15, la 16e étape, entre la Tour du Pin et Villard-de-Lans, Côte 2000. La prochaine pomme de difficulté, ce sera à peu près à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée. C'est la montée de Saint-Nizier et de Moucherotte. Alors, un col de première catégorie. Alors, la montée, c'est 11 kilomètres avec un pourcentage de 6,5% de moyenne. Et la montée finale vers Villard-de-Lans, c'est 2 km 200 à 6,5% de moyenne. La 17e étape, ce sera le mercredi 16, entre Grenoble et Méribel, col de la Louse, de la Loze, sur 170 km, avec le col de la Madeleine hors catégorie 17 km 100 à 8,4% de moyenne, et le col de la Loze, 2304 mètres, 21 km 500 à 7,8% moyenne, 8% de moyenne hors catégorie. Le jeudi 17, la 18e étape entre Méribel et La Roche sur Cornet, La Roche sur Faucon, Faron plutôt, 175 km avec le Cornet de Roselante, 18 km 600 à 6,1% de moyenne. Alors ensuite, il y aura dans le même jour, il y aura la montée du plateau des Glertes.
50 secondes.
À catégorie 6 km à 11,2% à 1390 mètres. Donc, bel pourcentage à 6 km à 11,2. Vendredi, 11, la 19e étape entre Bourg-en-Bresse et Chaparognol. 166 km 500, ce sera une étape pour les sprinters. Le samedi 19, la 20e étape que je connais parce que je connais le parcours par cœur. Entre l'Allure et la planche des Belfines, 36 km 200 contre la monte, avec une montée finale sur la planche des Belfines de 5 km 900 à 8,8% de moyenne. Et le dimanche 20 septembre, 21e étape entre Mantes-la-Jolie et les Champs-Élysées, avec un parcours de sur 122 km de plat. Une étape pour les sprinters. Donc, trois étapes pour en montagne, un contre-la-montre et deux étapes de plat. Voilà. Okay. Vainqueur final, la semaine prochaine. Bon, pour moi, ce sera un ou l'autre, Primo Roglic.